CFM Corde, le mag.
Dans le magazine où nous sommes en compagnie d'Inès Pacta, qui est chercheuse en archéologie, en archéométrie et qui sera présente à la Biennale des Verriers pour une expérience scientifique hors du commun au domaine de la verrerie de Carmaux. Bonjour Inès.
Bonjour Jacques.
Merci d'être avec nous sur CFM Radio. Tu es post-doctorante rattachée au laboratoire Trace de l'Université Toulouse de Jean Jaurès et le laboratoire IRAMAT de l'Université d'Orléans. Et tu travailles sur des thématiques qui sont liées à la production et à la consommation du matériau vert au Moyen-Âge. Alors, dis-nous déjà d'où vient cet intérêt pour le vert et pour l'archéologie expérimentale.
Alors, pour le vert, c'est une passion qui est née au cours de mes études. J'ai commencé mes études à Aix-en-Provence, des études en archéologie. Et j'avais un TD, on avait une grande liste de TD voilà, qui nous était présentée à la rentrée et on avait le choix entre quelques options. Et puis parmi elles, il y avait une éminente spécialiste du CNRS qui travaille sur le verre, Danielle Foy, qui proposait des cours. Et là, j'ai eu un coup de cœur. J'avais envie de travailler sur un art du feu. C'était quelque chose, la transformation de la matière me plaisait énormément. Et là, le verre, en fait, j'ai vu... C'est une discipline en archéologie qui est relativement jeune, tu vois, par rapport à l'étude de la céramique, des monnaies, de la statuaire, de l'architecture, etc. Le verre, il y a peu de gens qui travaillent dessus et donc il y a des problématiques très larges. Et du coup, on a de quoi faire toute une carrière dessus. Donc c'était lancé.
Et toi, tu te passionnes un peu plus pour le verre médiéval, le verre du Moyen-Âge. De quoi il s'agit exactement quand on parle comme ça du verre fabriqué, on va dire, entre le 11e et 12e siècle?
Alors, je me suis spécialisée sur le verre médiéval parce que c'est une période extrêmement intéressante, même si elle n'est pas forcément très loin, très éloignée de nous. C'est en fait, cette période marque vraiment le début de l'industrie ou l'artisanat du verre en Europe. Parce qu'en fait, il faut savoir que pendant toute l'Antiquité et jusqu'à l'aube du premier millénaire de notre ère, en fait, on ne fabrique pas, on ne produit pas la matière verre. En Europe, on importe le verre brut du Proche-Orient et à partir donc de cette charnière, on va dire à peu près autour du 8e siècle, donc chez nous le début de l'époque carolingienne, bien les artisans vont s'approprier cette première étape de la chaîne opératoire qui est de la fabrication, fabrication même du matériau. Et donc, c'est un moment extrêmement important dans l'histoire de ce matériau. Si on le retrouve aujourd'hui partout autour de nous, c'est la naissance.
Ça a démarré en Europe, en tout cas. Donc, au Proche-Orient, ils étaient plus en avance par rapport à ça, par rapport à la fabrication de verre, à l'utilisation aussi et même du verre au quotidien.
Alors, en fait, il faut s'imaginer, surtout pendant l'Empire romain, c'est vraiment un système qui est rationalisé. On fabrique le verre à un endroit... On l'exporte ensuite dans des ateliers qui se chargent de le refondre et tout est segmenté. C'est vraiment une chaîne opératoire segmentée.
Donc la mondialisation ne date pas d'aujourd'hui, quoi.
Pas du tout.
Quelle différence avec le verre que l'on utilise aujourd'hui?
Alors le verre n'a pas la même composition, n'aura pas non plus les mêmes usages. Alors on a par exemple, on n'a pas de verre qui vont pouvoir résister à de très hautes températures, donc on va pas l'utiliser un récipient verre pour cuisiner. Par contre, on va l'utiliser dans le service à boire, la présentation, le stockage même de certaines denrées, notamment des liquides, des produits pharmaceutiques, etc. Et puis, dans la fabrication du verre, on n'a pas du tout les mêmes recettes. Pas du tout les mêmes matières premières.
Mais on va voir ça. Mais déjà, je voudrais qu'on clarifie un de tes domaines de prédilection. On parle d'archéologie. Ça, tout le monde voit à peu près ce que c'est. On parle aussi d'archéométrie. Qu'est-ce que c'est?
Alors, l'archéométrie, au sens large, ce sont en fait des méthodes qui sont utilisées dans ce qu'on appelle des sciences dures. Donc, ça a plutôt la physique, chimie, les mathématiques, etc., qui sont appliquées à l'archéologie. Et dans mon domaine, dans la recherche sur le verre, ça consiste à faire des analyses élémentaires pour déterminer la composition du matériau. Donc, on va chercher vraiment les éléments chimiques qui composent ce matériau et puis retracer à partir de la quantification de ces éléments l'origine des matières premières, savoir à peu près la recette qui a été utilisée, quels ingrédients on a employés. Et donc, c'est voilà en quoi consistent ces analyses.
Alors, toi, tu es responsable d'un projet qui porte l'acronyme de GEMO pour Glass in Early Medieval Occitania, le verre dans l'Occitanie du Haut Moyen-Âge. Quel est l'objectif de ce projet de recherche-là et pourquoi principalement en Occitanie ?
Alors, l'objectif de ce projet, donc, qui est développé grâce au dispositif TIRIS de l'Université de Toulouse, je le mène depuis presque maintenant 2 ans et c'est pour aborder un nouveau volet dans ma recherche qui est l'archéologie expérimentale et donc de retrouver, de passer à la pratique en fait. Hein. Mm-hmm. On sort de notre laboratoire, on sort des bouquins et puis on passe à la pratique et travailler avec des verriers justement pour retrouver les gestes, expérimenter les procédés qu'on essaie de déduire du matériel archéologique, des études, etc. Et alors pourquoi en Occitanie ? C'était aussi l'opportunité de l'Université de Toulouse, mais aussi parce que c'est une région qui est en fait un très riche passé verrier, qui est peut-être assez méconnu en France. Quand on pense fabrication du verre en France, on va penser peut-être à la Lorraine plutôt, les verriers de Saint-Louis, Mésental, etc. Et beaucoup moins à l'Occitanie, alors qu'en fait, en tout cas au Moyen-Âge, on a énormément de traces d'implantation de verriers, que ce soit par exemple ici, pas très loin, la forêt de Grésigne, la montagne Noire, etc.
Donc en gros, ce sont des recherches qui peuvent permettre de réécrire un peu une partie de l'histoire, ou en tout cas de ce que nous on a retenu de l'histoire du patrimoine verrier.
Ouais, exactement. Et puis surtout, moi, je m'attache à essayer de le remonter, en fait, cette histoire, parce qu'elle est plutôt connue pour la fin du Moyen-Âge, pour l'époque moderne. Mais on a d'après mes recherches que je développe maintenant depuis 2-3 ans, en fait, je vois qu'il y a des verriers qui sont implantés depuis bien plus longtemps, depuis la fin de l'Antiquité, mais le tout début du Moyen-Âge. Essayer de les pister, de voir ce qu'ils ont produit, où est-ce qu'ils se sont implantés, et est-ce qu'ensuite il y a vraiment un lien après avec les espèces de districts verriers en fait, qui s'implantent autour de la montagne Noire, en forêt de Grésigne. Et donc de remonter vraiment aux origines de cet artisanat en Occitanie.
Et pour se plonger véritablement dans cette époque-là, vous avez, avec toute une équipe, reconstruit un four dont on va parler en suivant, un four qui est déjà prêt à accueillir du bois et qui sera vraiment mis à l'œuvre durant la Biennale des Verriers. On en parle avec toi, Inès Pacta, sur CFM Radio, après avoir écouté Garbage. Voici 21 Pilots.
I feel like
21 Pilots sur CFM Radio, l'album c'est Breach, il vient tout juste de sortir du four et le titre que vous entendez là, c'est Garbage. Nous sommes toujours en compagnie d'Inès Pacta pour parler de verre médiéval et tiens, on parle d'un four aussi, un four qui a été construit là à Carmo selon des techniques anciennes. L'idée c'est de pouvoir fabriquer et produire du verre comme cela se faisait au Moyen-Âge. Et c'est durant la Biennale des Verriers qui va se tenir du 3 au 5 octobre que l'on pourra voir toute cette équipe à l'œuvre. Alors Inès, il faudrait qu'on parle aussi de la construction de ce four parce que... Il est assez particulier, on va dire ça comme ça. Et c'est grâce à des écrits que vous avez retrouvés du moine Théophile que vous avez pu recréer ce four. Alors, il a quoi de particulier ce four? Quelles sont ses caractéristiques?
Alors, c'est un four de fusion. En fait, c'est un four de ce que le moine appelle un four de travail. C'est-à-dire qu'il y a une partie où on va fabriquer la matière et puis une deuxième partie où on va, donc une fois qu'on a produit ce qu'on appelle la frite. Alors la frite, c'est une préfusion à 900 degrés d'un mélange de cendres de plantes avec une source de silice. Donc ici, on utilise soit du sable, soit des galets de quartz qui ont été broyés. Donc on fait cette frite pendant plusieurs heures, voire une journée ou une nuit. Et puis ensuite, on sort ce mélange, un semi-produit. On la broie et puis on la met dans la deuxième partie du four, dans des creusets. Et donc, c'est là, dans ces creusets, qu'on va affiner le verre, qu'on va le monter en température à 1100-1200 degrés. Et c'est dans ces creusets que les verriers vont ensuite plonger la canne et ce qu'on appelle cueillir le verre pour ensuite le souffler et fabriquer de la vaisselle, etc. Des objets.
Donc c'est un four qui peut monter jusqu'à 1100 degrés, mais que chauffer au bois.
Ouais, que chauffer au bois. Et en fait, les fours chauffés au charbon n'apparaissent qu'au milieu du XVIIe siècle. Donc avant ça, on n'a vraiment que des structures de chauffe avec un combustible bois.
Le moine Théophile, il parle d'un bois en particulier qu'ils utilisaient à l'époque ou pas?
Ouais, il nous conseille d'utiliser du bois de hêtre. Et c'est ce qu'on va faire, on le suit, on est des bons élèves, on le suit vraiment à la lettre. C'est un bois qui brûle très bien, qui ne fait pas d'étincelles, peu de fumée, qui a une bonne combustion et qui va nous permettre donc de monter en température normalement assez rapidement et d'atteindre les températures nécessaires pour fusionner le verre.
Et le four, lui, uniquement en terre?
Alors non, on a fait les fondations, ce qu'on appelle la partie basse, donc l'alandier. Donc c'est là où en fait on a le foyer. Donc on l'a maçonné en pierre de grès avec un mortier mélange argile et sable.
Alors, est-ce que vous avez déjà eu des surprises ou découvert des choses inattendues jusqu'ici?
Sur la construction même, non, pas véritablement, parce que là, on travaille avec deux verriers, François Dubois et Chloé Grevas, qui s'appellent aussi les Infondus, et qui ont l'habitude de construire des fours selon des techniques anciennes, qui sont ce qu'on appelle archéologiquement compatibles, donc à partir de matériaux de terre cuite, d'argile, de sable, etc. Après, là, c'était un petit défi pour eux parce qu'on a dû construire une voûte. D'habitude, on fait des dômes, donc on les monte un peu comme des fours à pain ou comme des igloos.
Oui.
Et là, c'était de monter une voûte. Donc ça a été,
sans ossature
Alors si, on a fait une ossature quand même, parce qu'on a monté cette voûte en briques de terre crue. Pareil, ça aussi, c'était une première. Donc on a fait en fait notre mélange, on a fait nos briques nous-mêmes au moment du chantier de construction. Et puis ensuite on a monté cette voûte et elle tient. Et là par contre on va voir si elle tient à la fusion.
Ouais, parce qu'on parle vraiment d'expérience en plus en public devant tout le monde pour que l'on voie comment est-ce qu'on produisait du verre à l'époque. Et en quoi cette expérience peut-elle, changer notre compréhension des savoirs verriers anciens?
Alors cette expérience, on l'amène parce que c'est une technique de fabrication qui a disparu depuis plusieurs siècles. Les dernières attestations de fabrication du verre à partir de cendres de plantes forestières, elles datent du 19e siècle en Bohême. Et donc en fait, plus personne ne sait travailler le verre de cette façon. Donc en fait, même si on a quelques écrits, et notamment tardifs, on n'a pas de notion de temps. Sur le temps nécessaire pour fusionner le verre, la réaction, en fait, c'est vraiment aussi retrouver cette espèce d'intuition tu vois, de voir la matière, à quel moment en fait elle est prête, à quel moment il faut la sortir, à quel moment il faut voilà, la remettre dans les creusets, voilà, comment elle se comporte. Et du coup, c'est voir aussi qu'est-ce que ça demande en fait en termes de logistique, d'approvisionnement en bois. Voilà, la temporalité en fait à chaque fois est très importante. Et puis de voir ben, si... Parce que là, on suit en fait une recette vraiment qui est donnée par ce moine Théophile. Donc, on va utiliser 2 portions de cendre pour 1 portion de sable. Après, voilà, on sait en fait que les écrits peuvent être aussi limités parce que ce moine n'était pas vraiment verrier. En fait, il a observé des verriers faire.
Il a retranscrit.
Voilà. Mais donc, c'est un lettré, ce n'est pas forcément un pratiquant. Et du coup... Qu'est-ce que ça va... Voilà, est-ce qu'il nous livre tous les secrets? Est-ce que nous, au moment où on va vouloir reproduire cette recette à la lettre, est-ce qu'en fait, il ne nous manque pas quelque chose? Voir comment se comportent les ingrédients. Donc, c'est... Voilà.
D'où la collusion entre, on va dire, des archéologues comme toi et puis des verriers professionnels qui vont apporter leur savoir-faire et peut-être retirer aussi des bénéfices pour leur création contemporaine dans le futur. Et ce projet Gémeaux est présenté comme unique en Europe. On comprend un peu mieux pourquoi. Est-ce que tu as déjà des attentes ou des retours d'autres chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là, que ce soit en France ou à l'étranger?
Alors oui, parce que c'est vrai qu'on est quand même, même si on n'est pas beaucoup, hein, déjà on n'est pas beaucoup d'archéologues, et en plus à s'intéresser au verre médiéval, mais on est quelques-uns quand même, et c'est vrai que là c'est un petit défi, parce que c'est une expérience qui n'a jamais été reproduite, en fait, soit il y a des fours à peu près, alors pas complètement similaires, mais un peu plus petits, qui ont été reconstruits, mais où ils ont fusionné en fait, du verre moderne, donc ils n'ont pas poussé l'expérimentation, soit en fait on fait... des tests en laboratoire où on va essayer de reproduire les mêmes recettes, mais ce sont dans des fours électriques et tout. Donc nous, on fait vraiment l'expérience de A à Z, on se remet complètement en condition. Donc oui, c'est vraiment, en fait, pour la communauté, ça va être une étape assez importante parce que c'est aussi travailler vraiment avec des matières. En fait, on utilise aussi un sable, on va dire, entre guillemets, local qui est du Lot. Un sable riche en silice, on utilise voilà, des cendres de plantes qui ont été aussi récoltées localement. Du coup, c'est vraiment se remettre en condition. C'est plus en condition de laboratoire. Et ça, c'est quand même très important, en fait, parce que nous, en tant que chercheurs, on passe rarement à la pratique. Hein. Il faut dire qu'on reste des théoriciens. Et donc là, c'est apporter ce regard-là à la communauté.
Alors, est-ce que dans le secret de ton cœur, il y a des attentes particulières dans le type de verre qui va sortir de ce four-là?
Alors, si déjà on arrive à faire du verre, ça sera
déjà
top.
Rien que ça.
Ça top. Si les verriers peuvent le souffler, ça sera vraiment génial. Voilà, moi, ce que j'ai vu en laboratoire, on a des verres qui vont être légèrement teintés, qui peuvent être ambre ou vert clair. Donc, ça peut être vraiment... Selon les cendres qu'on va utiliser, en fait, parce que ça dépend aussi des types de cendres. Donc, ouais, si on arrive à faire ça et si les verriers, vendredi ou samedi, arrivent à souffler des objets, c'est gagné, quoi.
Et puis, on le verra durant cette biennale des verriers qui ne signe pas la fin du projet. C'est quoi la suite pour toi, pour vous, au sein de Gémeaux, après cette biennale des verriers, après avoir vu le four en activité et en action?
Alors déjà, il y a toute une étape, en fait, ben de vraiment faire le bilan de cette expérimentation, de la valoriser tant auprès du public que ensuite scientifiquement. Donc d'écrire tout le protocole, etc., voir les résultats. Moi, je vais faire des analyses ensuite de composition élémentaire sur les échantillons qu'on va prélever tout au long de cette expérimentation. Et à moyen et plus long terme, en fait, le but, là, de la construction de ce four, ça serait, en fait, c'est un peu les premières pierres d'un projet un peu plus vaste qui serait la construction d'une plateforme expérimentale autour de l'art verrier qu'on aimerait implanter durablement, de façon pérenne, à Carmaux, en lien avec la plateforme Archéosciences. Donc, la plateforme Archéosciences, c'est une plateforme d'archéologie expérimentale qui est développé au laboratoire Trace avec d'autres laboratoires et par l'Université de Toulouse. Et donc, bon, c'est difficile de s'implanter, nous, sur le campus du Mirail, d'amener les verriers là. Mais par contre, le domaine de la verrie, c'est un lieu, voilà, c'est à part son passé donc historique et son implantation, on est quand même qu'à 1 heure et quelques de Toulouse. Donc, ça serait créer ce lieu vraiment où les chercheurs français et européens pourraient venir et construire d'autres types de fours, échanger et vraiment, avec l'aide de verriers, expérimenter cet artisanat.
Eh bien, il est spectacle que l'on retrouve durant cette biennale des Verriers pour parler de ces projets de recherche et aussi vulgariser les connaissances, montrer aussi que les chercheurs ne restent pas juste avec leur blouse blanche et dans les laboratoires. Donc, merci beaucoup Inès pour cette plongée dans le monde fascinant des verreries médiévales. Ton travail nous montre à quel point l'histoire et la science peuvent dialoguer, combien il est important d'essayer de comprendre les savoir-faire anciens, parce qu'il y a tout cela autour de ce projet. C'est aussi de comprendre comment est-ce qu'ils vivaient à l'époque du Moyen-Âge et tout ce qu'ils arrivaient à fabriquer. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus, eh bien, rendez-vous donc à Carmaux, au domaine de la verrerie, à l'occasion de la 12e Biennale des Verriers, pour découvrir en direct cette expérience unique en Europe. Là, tu dois aller réceptionner le bois maintenant,
Exactement,
Inès.
Exactement, cet après-midi, voilà, je réceptionne les 7 stères de bois de hêtre.
Allez, bon courage pour chauffer le four. Merci d'être passé par les studios de CFM Radio. Inès Pacta, on te dit à bientôt donc et rendez-vous sur la Biennale des Verriers.
Merci beaucoup, puis au plaisir de vous retrouver autour du four.
J'ai des aéroports à l'intérieur de moi. Je veux avoir du respect vis-à-vis des avions. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils pensent que je me moque d'eux. Je veux prendre soin de vous, les avions. Vous faire sortir de moi pour prendre soin de vous. Vous manipuler doucement. Ne pas claquer la porte trop fort. J'ai peur de vous avaler. Vous êtes le symbole du voyage. Je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose.
Le mag du Tarn, c'est tout pour aujourd'hui. Les informations à suivre sur nos ondes. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi pour d'autres actualités de notre territoire. À bientôt.
Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Olivier, c'est vrai que mon père va te vendre notre appartement, et qu'il me répond, oui c'est vrai, d'ailleurs je ne suis pas content que tu aies fait des trous dans le mur. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Thomas qu'on passera toute notre vie dans la rue et qu'on dormira sur sa veste, et qu'on mangera les feuilles des arbres pour le petit déjeuner par terre dans la rue. Ce sera mieux que de manger le petit déjeuner à l'hôtel. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose, je ris pour autre chose. Je me moque pas de vous, je ris pour autre chose. Comme je tiens à vous et que je vous aime beaucoup, je ris pour autre chose. Je ris pour autre chose. Jamais je me moquerai de vous, je ris pour autre chose. Je tiens à vous, je vous aime beaucoup. Quand j'appelle mon père Ryan et que je lui dis qu'on est tous les deux des enfants et qu'on s'amuse pendant que les parents ne sont pas là. Ce qui me fait rire, c'est Arthur qui imite la mère américaine qui rentre à la maison.
Honey, I'm home and I have beef jerky for you.
Ça me fait rire de faire dire des conneries aux gens. Connaissez-vous le patami des enfants? La personne répète machinalement parce qu'elle ne comprend pas. Ça me met dans un état d'excitation. Connaissez-vous le pote informatique, la confiance? Connaissez-vous la hall? Connaissez-vous la boulgourine? Pensez-vous que ma cousine en Angleterre a beaucoup de caractère?